Merci d'être avec nous sur RFI, il est minuit à Paris.
24 heures en France sur RFI.
Bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité française. On est ensemble pour la prochaine demi-heure.
Mathis Limano.
21 personnes présentées à la justice. Elles sont suspectées d'être impliquées dans l'attaque des prisons. La piste des narcotrafiquants désormais privilégiée. Le tueur d'Aboubacar Cissé avait une envie obsessionnelle de tuer. Les mots de la procureure de Nîmes qui écarte la piste d'un acte de terrorisme par haine de l'islam. La famille de ce jeune Malien s'indigne. Elle a annoncé porter plainte pour acte de terrorisme. À suivre aussi le débat sur la nationalisation d'entreprises relancées en France et ce dans le contexte d'emploi menacé à la sidérurgie d'ArcelorMittal. Peut-être un espoir dans la lutte contre la bronchiolite, cette maladie respiratoire du nourrisson. Et puis en Ligue 1, il y aura bien un derby parisien la saison prochaine. Le Paris FC monte dans l'élite du foot français.
Radio France Internationale.
La piste des narcotrafiquants confirmée dans l'attaque contre les prisons, des attaques signées d'un mystérieux groupe baptisé DDPF, Défense des prisonniers français. Si le parquet national antiterroriste s'était d'abord saisi de l'affaire, elle passe entre les mains de la JUNALCO, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité. Laura Martel, 21 personnes dont 2 mineurs sont déférées devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen.
L'enquête a vite progressé dans cette affaire qui porte sur 15 actes de dégradation et d'action violente contre des prisons ainsi que contre les domiciles et véhicules d'agents pénitentiaires commis un peu partout sur le territoire. Des actions coordonnées qui ne procèdent pas d'une entreprise terroriste, souligne donc le parquet, mais bien de la très grande criminalité organisée. Le mode opératoire correspond d'ailleurs à celui habituellement employé par les organisations criminelles, pointe-t-il, avec un mot d'ordre d'action donné par l'instigateur du mouvement DDPF sur une chaîne Telegram, puis diverses offres d'action relayées sur les réseaux sociaux pour recruter des exécutants qui passent à l'acte contre une rémunération significative. Parmi les 21 personnes qui doivent être présentées devant un juge d'instruction spécialisé, figure d'ailleurs un homme soupçonné d'être le créateur du premier compte Telegram intitulé DDPF et qui aurait rédigé le texte de revendication contre les conditions carcérales. Cet individu, actuellement détenu, est déjà mis en examen pour des faits liés au narco-banditisme marseillais et notamment proche du gang des Z-Mafia. 3 autres mises en cause également détenus et inscrits dans la grande criminalité, auraient joué un rôle de relais et de donneur d'ordre selon les enquêteurs, en désignant des cibles manifestement choisies parmi les agents et établissements pénitentiaires de leur connaissance. Pour l'ensemble des mises en cause, le placement en détention provisoire a été requis.
Dans cette affaire de l'attaque des prisons, la procureure de Paris tiendra une conférence de presse ce samedi. Au lendemain des défilés du 1er mai, 54 personnes placées en garde à vue à Paris. L'une d'elles est suspectée d'avoir commis des violences autour du stand du Parti Socialiste. Des responsables dénoncent des attaques antisémites, notamment contre le député Jérôme Guedj, pris à partie. Il avait dû quitter le cortège. Les suites de l'assassinat d'Aboubacar Cissé, le jeune Malien de 22 ans tué la semaine dernière dans la mosquée de Grand Combe dans le Gard. Alors que la procédure d'extradition de l'Italie vers la France de son meurtrier est en cours, la procureure de la République de Nîmes a donné une conférence de presse. Cécile Jeanzac est revenue sur les raisons pour lesquelles le dossier a été confié au pôle criminel de Nîmes et non au parquet national antiterroriste, comme le réclame pourtant la famille du défunt.
Le ciblage, à raison de la race et de la religion, n'est pas un critère suffisant de la saisine du PNAT. Le caractère potentiellement international des investigations non plus. La suite des informations que je vous délivrerai vous permettra alors de mieux suivre le cheminement que fut celui du PNAT. Très rapidement, il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique, ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique qu'elle entendrait porter par l'intimidation ou par la terreur. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Les faits apparaissent donc à ce stade construits autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne.
Les avocats de la famille Cissé avaient annoncé plus tôt leur intention de déposer plainte pour requalifier l'enquête en assassinat terroriste. Après plusieurs jours de balbutiements du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau va recevoir la famille lundi. Réunis en commission, les députés ont approuvé une proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Serpent de mer d'Emmanuel Macron, le texte a été adopté par 28 députés contre 15. Il permettrait aux malades souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital de recevoir ou de s'administrer une substance létale. Les débats dans l'hémicycle commenceront dans 10 jours. Et après la convention citoyenne sur la fin de vie et celle sur le climat, Emmanuel Macron annonce une nouvelle consultation des citoyens au mois de juin. Elle portera sur les temps de vacances et les horaires à l'école. La question du nombre de semaines de vacances sera notamment abordée.
24 heures en France.
Et minuit 5 à Paris, le retour d'un débat, celui sur les nationalisations d'entreprises. On vous en a parlé sur RFI, la sidérurgie ArcelorMittal, malgré de bons résultats, projette de supprimer 600 emplois en France pour délocaliser en Inde. Alors face à cette situation, la gauche demande à l'État de monter au créneau, une solution qu'elle n'avait pourtant pas portée jusqu'au bout à l'époque, Victorien Villaume.
C'était en 2012, la gauche socialiste émet l'idée de nationaliser l'usine ArcelorMittal de Florange, avant de finalement renoncer. 13 ans plus tard, la gauche est dans l'opposition et tous les partis de LFI au PS mettent cette idée sur la table. Nicolas Mayer-Rossignol.
La nationalisation, les États-Unis l'ont fait pour General Motors. Le Royaume-Uni l'a fait. L'Allemagne l'a fait. C'est pas des pays soviétiques. On peut pas dire d'un côté, il faut une souveraineté industrielle en France et pas tout faire pour défendre les emplois en France ou en Europe.
Nationaliser les salariés eux-mêmes voient ça comme le remède et le gouvernement se retrouve donc contraint de se positionner. La nationalisation n'est pas à l'ordre du jour, tranche le ministre Marc Ferracci sur BFM TV.
Il faut que la Commission européenne prenne des mesures extrêmement fortes pour éviter les importations d'acier chinois qui aujourd'hui font qu'Arcelor a suspendu un certain nombre d'investissements. Si on arrive à lutter et faire en sorte que Arcelor lutte à armes égales avec les Chinois en taxant, en limitant les importations, alors les investissements se feront, alors il y a un avenir pour la sidérurgie en France et en particulier à Dunkerque.
Face à ce refus, la gauche espère peser dans le dossier ArcelorMittal en passant par le Parlement. Le PS va déposer un texte de loi pour que l'État mette sous tutelle l'usine de Dunkerque.
Victorien Villaume, un maghrébin binational n'a pas sa place en haut lieu. Un député ex-Rassemblement National condamné à une amende de 3000 euros. Daniel Grenon, député de Lyon, a été condamné pour provocation publique à la discrimination et injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion. Il était poursuivi par 3 associations antiracistes. Un espoir dans la lutte contre la bronchiolite, cette maladie respiratoire qui touche les nourrissons. Une vaste étude, la plus importante menée jusqu'alors sur le sujet, publiée dans la revue The Lancet, et confirme l'efficacité du Befortus, un traitement aujourd'hui commercialisé au sein de l'Union européenne et qui permet de limiter les formes graves de la maladie. Baptiste Coulon.
Le plus souvent, la bronchiolite est sans gravité chez les nourrissons. Mais dans certains cas, cette maladie respiratoire peut prendre une forme grave nécessitant une hospitalisation. Et en cas d'épidémie, les urgences peuvent être saturées. Cette vaste étude a été conduite par des chercheurs canadiens dans 5 pays, dont la France, l'Espagne et les États-Unis. Elle confirme l'efficacité du Befortus pour prévenir les formes graves de la bronchiolite. Le nirsevimab, la molécule au cœur de ce traitement préventif, réduit de plus de 80% les risques d'hospitalisation et les admissions en soins intensifs. L'immunisation est aussi plus efficace chez les nourrissons de plus de 3 mois, mais les auteurs de l'étude notent des différences notables selon les pays. Ainsi, le traitement réduit davantage les hospitalisations aux États-Unis, 93%, plutôt qu'en France, 76%. Explication possible selon les chercheurs, une proportion plus élevée de nourrissons à risque d'infection grave ayant reçu le traitement au Befortus aux États-Unis. Un traitement développé par le laboratoire français Sanofi et le britannique AstraZeneca. Il est aujourd'hui approuvé au sein de l'Union européenne.
Baptiste Coulon, musique à présent avec une figure emblématique de la musique africaine et camerounaise qui sera ce 4 mai dimanche à l'affiche de l'Olympia à Paris. Le chanteur Bendeka viendra fêter sur cette scène mythique, ses 40 ans de carrière, lui qui a contribué à donner ses lettres de noblesse au Makossa, ce rythme né dans son pays, Edmond Sadaka.
Derrière ses lunettes noires et sa coiffe traditionnelle, Bendeka fait partie depuis longtemps des grandes voix du Makossa, la musique de la région de Douala, située sur la côte du Cameroun. À l'Olympia, accompagné de son orchestre, il viendra interpréter quelques-uns de ses titres incontournables comme « Souffrance d'amour » ou encore « Amour à sens unique ». Le premier contact de Bendeka avec la musique s'est fait par le plus pur des hasards. Alors qu'il était en France pour y poursuivre des études, un ami l'entend chanter et lui propose tout simplement d'enregistrer. Tout ira ensuite très vite. Premier album solo en 1981, plus d'une vingtaine vont suivre. Bendeka, 67 ans aujourd'hui, chante essentiellement l'amour en français et en langue douala. Son influence dépasse depuis longtemps les frontières de son Cameroun natal et rassemble une large communauté de fans dans les diasporas africaines.
Et du football à présent sur RFI, bientôt un derby parisien en Ligue 1. Le Paris FC va rejoindre le Paris Saint-Germain dans l'élite après son match nul ce vendredi à Martigues. Victor Missistrano a recueilli les réactions des supporters du PFC au terme d'une soirée pleine d'émotions.
Tout ce qu'on fait, c'est monter en Ligue 1, monter en Ligue 1, monter en Ligue 1.
On est en Ligue 1. Ça, c'est le principal. Merci au coach, merci au président Pierre Ferracci. Franchement, merci aux joueurs. Ça fait depuis le Covid que je supporte à fond le club. Et franchement, il s'est passé des choses entre temps. Et le club est incroyable. Les joueurs, en fait, on le voit, ils sont archi abordables. Et ça donne envie de revenir. Les supporters, ils sont accueillants, ils sont chaleureux, c'est une famille.
Un club qu'on attend depuis 20 ans, Ligue 1, on y est. Maintenant, écoutez bien la Ligue 1, on arrive pour tout casser, c'est tout, point.
Ça fait 10 ans, nous, qu'on va au stade, on a fait plus de 200 matchs, et là, on est trop contents, là, on est refait.
Il y a 10 ans, on avait vécu la montée en D2, on s'était dit qu'on irait rapidement en Ligue 1, bon, il a fallu attendre 10 ans, mais ça valait vraiment le coup. Il y a eu tellement de désillusions ces dernières années, tellement de barrages perdus, tellement de retournements de situation. Quand Metz a remonté les deux buts, j'étais quasiment sûr que ça allait arriver de nouveau. Je me suis dit, c'est pas grave.
Ça a explosé. De toute façon, la salle, elle a explosé.
La salle a vraiment explosé.
Très grande joie. Après toutes les désillusions, il fallait au bout d'un moment, fallait que ça arrive.
Un reportage Victor Missistrano. On referme cette page sport avec la une de l'équipe. Le rédacteur en chef du journal, Antoine Bourlon, avec Philippe Le Caplain.
C'est le numéro 2222 qui dit 2 dit duo. Et en couverture, ce couple qui a fait la une aux Jeux Olympiques, ce sont des Américains qui vous ont reçu chez eux au Kansas.
Ouais, bien sûr, Tara et Hunter Woodall, donc le couple qui a un peu marqué les gens lors des Jeux Olympiques et Paralympiques l'année dernière. Donc Tara, qui a été championne olympique de saut en longueur, qui a un personnage vraiment haut en couleur, beaucoup de personnalité, toujours en train de rire, de bondir, de partager ses émotions. Et Hunter, donc athlète paralympique de 400 mètres, qui court avec deux prothèses. Et donc ce qui avait surtout marqué les gens, c'était donc lors du sacre de Tara, Hunter était en tribune pour la soutenir, et à l'inverse, évidemment, quand Hunter a ensuite été champion paralympique, Tara était en tribune. Donc c'est un couple assez marquant de l'athlétisme, qui est aussi connu par le fait qu'ils partagent énormément de choses sur les réseaux sociaux, sur leur vie commune, leurs entraînements, leur épopée. C'est un couple passionnant du sport, parce que qui se soutient mutuellement. Tara raconte aussi tous les regards qu'on a portés sur elle du fait de sortir avec un handicapé,
ouais,
tout simplement.
Hunter dit, on aime montrer qu'on est juste des gens normaux.
Ouais, parce que eux, ce qu'ils veulent partager, et la vision du sport qu'ils partagent, c'est d'être deux athlètes, pour le coup, très ouverts, qui partagent beaucoup d'émotions avec les gens, avec leurs fans, que ce soit même sur les, je parle des réseaux sociaux, mais c'est aussi vrai sur les stades. Hein. C'est des gens qui communiquent beaucoup avec le public, par les regards, par les gestes, par tout ce qu'ils diffusent. Et donc ce couple, il est passionnant, non pas parce qu'ils sont juste en couple et qu'ils gagnent des médailles, mais par tout ça, par ce qu'ils dégagent et une certaine vision du sport que tout le monde aime. Et en plus, ce qui est rigolo d'aller les voir au Kansas, c'est qu'ils sont pas du tout dans une ville, ils sont perdus au milieu de nulle part. C'est très curieux de voir des gens qui sont hyper ouverts sur le monde, qui ont des milliers d'abonnés, mais voire des millions, vivre dans un tout petit patelin du cœur des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aller les rencontrer, qu'on les a mis en une de ce numéro.
Avec ce titre, 2 de l'Olympe, 2 et Dieu, bien sûr, bien de sûr. L'Olympe. Autre duo, Antoine Bourlon, ce sont les frères Inoue. Ce sont des Japonais et tous deux sont des boxeurs.
Ouais, tout à fait. Donc dans ce magazine 2222, on a voulu mettre tous les couples à l'honneur, et les duos surtout, au-delà des couples. Et les frères Inoue, donc ils sont surtout connus, et celui qui est surtout très très connu, c'est le grand frère Naoya, qui est aujourd'hui, on peut le dire sans trop de problèmes, dans les trois meilleurs boxeurs du monde, toutes catégories confondues. En France, on le connaît pas trop, déjà parce que c'est un poids très léger, et en France, on connaît surtout les poids lourds, et même dans la boxe mondiale, on connaît surtout les poids lourds. Mais Naoya, c'est un boxeur honnêtement exceptionnel.
Surnommé Monster, le monstre.
Ouais, exactement.
Malgré sa faible constitution, on va dire.
Ouais, ouais, il a des statistiques exceptionnelles, énormément de ceintures de champion du monde. Franchement, c'est une superstar au Japon. Il remplit les plus grandes salles et ce week-end, il combat aux États-Unis. Et ce qu'on a voulu raconter, au-delà de faire un portrait de Naoya, qui est un des plus grands boxeurs donc de la planète, c'est aussi raconter le parcours de la saga familiale. Il y a aussi le papa qui a été un boxeur de petit niveau et comment les deux se sont formés, comment aussi le petit frère vit dans l'ombre du grand frère, parce que tout le monde dit bah, évidemment qu'il n'est pas aussi fort, enfin le dit et le constate, ce qui est vrai. Et donc c'est toute cette saga qu'on raconte et comment ils vivent tous les deux à des niveaux différents dans la boxe. Le petit frère est évidemment un grand boxeur aussi, hein, non pas que, mais pas du tout comme son grand frère.
Des frères, les frères Inoue au Japon. En France, ce sont les frères Ladevant qui ont suscité votre intérêt. Ils sont donc français et champions tous deux d'escalade.
Oui, bien sûr. Donc deux frères qui se, en plus, se ressemblent énormément dans le style, dans ce qui les anime au quotidien.
Tous les deux, la petite moustache,
la même pilosité d'ailleurs. Ouais. On a ça qu'on a mis, le même style, la même, pas la même vraiment façon de grimper, mais ce qu'on a voulu raconter, c'est vraiment c'est comment on vit à deux au plus haut niveau de l'escalade, parce qu'ils font vraiment partie des meilleurs grimpeurs français et même des meilleurs grimpeurs du monde. Et aussi, ce qu'ils portent, les frères là-devant, c'est un message autour de l'écologie, parce que eux, ce qu'ils constatent depuis plusieurs années, c'est un déjà le réchauffement des températures, et d'ailleurs c'est le titre du papier, c'est maintenant on grimpe en t-shirt, même dans des zones montagneuses, il y a beaucoup de structures, donc eux, ils grimpaient sur la glace. Maintenant ils grimpent aussi sur des structures en bois qui avant étaient parfois un peu des deux, maintenant c'est vraiment que du bois. Donc voilà, ils racontent aussi une certaine évolution de leur sport, comment tout ça va évoluer encore plus dans les années à venir, parce que c'est pas fait pour s'arranger. Et donc voilà, c'est le message que en tout cas ces deux frères français portent.
Dites-nous un mot de ce portfolio consacré au Grand National, qui est un meeting hippique très réputé en Angleterre. Hein.
Ouais, bien sûr, c'est la visite un peu de la semaine en portfolio avec le photographe anglais Théo McInnes, avec qui on a beaucoup l'habitude de travailler, riche en couleurs. Le Grand National, pour faire simple, en fait, c'est l'équivalent un peu du Grand Prix de l'Arc de Triomphe en France à Longchamp. Donc c'est une course très réputée et évidemment c'est le monde hippique est très chic.
Oui, il y a des élégantes avec des chapeaux forcément, ouais, comme on a en Angleterre.
Évidemment.
Mais au Grand Prix de Diane, c'est à peu près la même chose ici,
oui,
en France.
Voilà,
hein.
Exactement, c'est un peu le jumeau. Et il y a aussi tout un kitsch un peu anglais autour de ces courses hippiques et notamment celle-ci au Grand National, qui a aussi lieu à Cheltenham, une autre. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on a voulu montrer, c'est le kitsch anglais réuni au même endroit pour la course hippique.
À la une du journal L'Équipe avec son rédacteur en chef Antoine Bourlon et Philippe Le Caplin pour refermer votre journal. Mais restez avec nous, 24 heures en France, ça continue avec l'invité culture.
24 heures en France. Mathis Limano.
L'histoire récente de l'Algérie racontée à partir d'un immeuble. C'est le pari de la bande dessinée Rouama, dont le deuxième tome vient de paraître chez Dargo. Le dessinateur de presse Salim Zerouki raconte à hauteur d'enfants et d'adolescents les décennies 1980 et 1990 dans son pays. Salim Zerouki est l'invité de Sophie Torlotin.
Bonjour Salim Zerouki.
Bonjour.
Rouama, c'est votre autobiographie en deux tomes, enfance et adolescence, vue par le prisme de l'immeuble dans lequel vous avez grandi, construit en 1975 comme emblème des ambitions modernistes de Boumédienne et qui se dégrade progressivement au fil des pages. Est-ce que c'est une façon pour vous de montrer que cet immeuble en fait symbolise la déliquescence du régime algérien ?
De l'Algérie entière, oui. Pour moi, c'est un symbole de ce que c'était l'Algérie ou de ce qu'on voulait qu'elle soit et ce qu'elle est devenue.
Rouama, ça veut dire quoi ?
Rouama, ça veut dire les Français, tout simplement. Et j'habitais dans cet immeuble-là qui était prévu pour les fonctionnaires de l'Institut de la Science et Technologie du Sport. Il y avait pas mal de coopérants, russes, allemands de l'Est et cubains, et des Algériens aussi. Comme on était assez mixtes, on nous a appelés les Rouama.
Vous êtes adolescent dans les années 90, Salim Zerouki, pendant la décennie noire, mais vous l'écrivez aussi en préambule, vous n'aimez pas cette appellation.
Non, je n'aime pas parce que c'est une fausse appellation. La décennie noire, elle s'est transformée avec le temps vers une crise sécuritaire. Mais si on avait dès le départ appelé ça une guerre civile, elle ne se serait jamais transformée.
Et vous les représentez, Salim Zerouki, dans votre bande dessinée, sous forme alors, de loup pour les islamistes, oui, et de hyènes pour les forces de l'ordre.
Pour les forces de l'ordre, exactement. Je ne voulais pas dessiner tout ce qui s'est passé. Et en passant par les animaux, ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus fort, mais de moins violent à l'image.
Vous ne vouliez pas le raconter, Salim Zerouki. Ce qu'on ressent à la lecture de votre bande dessinée, qui est racontée à partir de vos souvenirs, c'est que vous êtes adolescent. En même temps, c'est des très belles années, les années d'adolescence, l'année du bac, par exemple. Il y a une forme d'insouciance aussi.
Il y a une forme d'insouciance et c'est ça ce qui nous a sauvés un petit peu. Parce qu'on n'était pas vraiment conscient de ce qui s'est passé, même si on l'était, mais on continuait à vivre normalement notre vie. On ne se préoccupait pas de tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans cette BD, c'est qu'on avait une vie tout à fait ordinaire, où on avait des ambitions, comme toute jeune sur la planète, je suppose, les filles, les séries américaines, le sport, le basket. Mais en même temps, on avait une guerre civile qu'on enfouissait en nous peu à peu.
Puis il y a eu une loi d'amnistie, et là, de ce que je comprends, Salim Zerouki, une loi interdit d'évoquer ces années en Algérie.
Oui, pas la loi d'amnistie, la première, mais la deuxième, quand elle a évolué vers la charte de la réconciliation nationale. Oui, il y a une loi Bayon et une loi qui conforte les criminels de cette guerre.
Mais est-ce à dire qu'on ne peut pas trouver Rouhama en Algérie, en tout cas en librairie
Rouhama en Algérie, je pense qu'on ne le trouve pas pour d'autres raisons. Comme je viens du dessin de presse et que j'avais l'habitude d'être sans pitié dans mes dessins, je ne voulais pas être subtil sur la BD. C'est quelque chose qui me concernait. Et je voulais vraiment dire que c'est un état criminel qui a commis des horreurs. Et je l'ai dit clairement dans la BD.
Mais vous n'habitez plus en Algérie?
Non, je n'habite plus en Algérie.
Et ça, c'était pour exercer librement?
Oui, pour faire cette bande dessinée.
Salim Zerouki, merci.
Merci à vous.
Le tome 2 de Rouhama, paru chez Dargaud, à retrouver en librairie. Alger, il est 23h22, excusez-moi, une heure de plus, à Paris, direction le musée d'Orsay, qui rend hommage à un art rarement mis en valeur dans les musées, l'affiche illustrée, devenue véritable phénomène de société qui a profondément transformé l'espace public au cours de la seconde moitié du 19e siècle. À travers près de 230 œuvres, dont une presse lithographique manuelle, le musée d'Orsay rend hommage à l'affiche illustrée, donc l'art est dans la rue, c'est le nom de cette rétrospective déambulation de Carmen Lucet.
Qu'elles annoncent le bal du Moulin Rouge où vente vélo et chocolat, les affiches colorées ornent les murs, les kiosques, les urinoirs et les couloirs du métro, jusqu'à transformer des êtres humains en hommes sandwich ambulants. À la fin du 19e siècle, elles finissent par envahir tout Paris. Clémence Reynaud, conservatrice en chef architecture au musée d'Orsay, est l'une des commissaires de l'exposition « L'art est dans la rue ».
Souvent de très grands formats. Ces affiches vont susciter beaucoup de critiques, et notamment celle de Charles Garnier, qui considère que leurs tons sont criards, qu'elles sont de mauvais goût. Donc Charles Garnier va lancer un combat contre ce qu'il appelle les affiches agaçantes. C'est le titre d'un article qu'il publie dans la Gazette des Beaux-Arts en 1871.
Choquante pour certains, séduisante pour d'autres, ces affiches révolutionnent le Paris de la Belle Époque grâce aux quelques 8000 couleurs d'affiches et à un artiste ingénieux.
Le père de l'affiche moderne, c'est Jules Chéret, qui va développer la lithographie en couleurs, avec des couleurs de plus en plus éclatantes. Et dans les années 1880, apparaissent les premiers défenseurs qui considèrent qu'elle transfigure les rues de Paris, notamment Huysmans, qui critique la ville haussmannienne. Il en parle comme d'un décor pénitentiaire. Donc Huysmans se réjouit de la joie des couleurs qu'apportent les affiches de Jules Chéret dans la rue.
L'affiche sur le mur doit hurler, elle doit violenter le regard des passants, affirmait Henri-Gustave Jossot, autre fervent défenseur de cet art. Ces caricatures illustrent aussi bien des publicités pour des boîtes de sardines et des spiritueux que pour des journaux anticléricaux.
Les affiches traduisent, rendent compte des débats qui divisent profondément la société française à l'époque, débats sur la laïcité. Sont souvent des affiches qui ont une tonalité très virulente. Et les années 1880 sont également marquées par le développement d'un antisémitisme racial que certaines affiches reflètent.
Miroir de la société et symbole de la vie moderne, l'affiche incarne les luttes idéologiques, politiques et féministes sans temps, fantasmes et réalités. Sublimée par des peintres tels que Pierre Bonnard et Henri Toulouse-Lautrec, elle passe du simple support publicitaire à un objet de collection, devenant ainsi un art à part entière.
Dans la rue, dans la rue.
L'art est dans la rue, à découvrir au musée d'Orsay jusqu'au 6 juillet.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et c'est avec vous, Caroline Paré. Ce soir, on parle art-thérapie.
Katharina Oussaman, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes psychologue et responsable au centre art-thérapie et psychothérapie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Pour quel type de pathologie l'art-thérapie peut-elle être particulièrement pertinente ?
Elle peut être justement pertinente pour beaucoup de pathologies, aussi bien pour les psychopathologies graves, qu'on appelle aussi des maladies psychiatriques, que pour les pathologies légères, tous ces troubles d'anxiété, de dépressivité, d'addiction, etc., qu'on connaît bien dans notre environnement naturel en général.
Ça veut dire qu'on peut retrouver cette pratique aussi bien dans une structure de soins, on va dire classique, pour des maladies du corps, que pour des structures qui prennent en charge les maladies mentales.
Tout à fait. Et de plus en plus maintenant, on peut introduire l'art-thérapie dans toutes sortes de services.
Est-ce que vous diriez que certains patients sont plus réceptifs que d'autres à l'art-thérapie ?
Il faudrait tout de même avoir une toute petite affinité pour pouvoir s'ouvrir un peu à l'imaginaire. Puisque la rationalité de l'être humain, elle nous préserve de beaucoup de difficultés dans la vie, mais parfois elle nous restreignent tellement qu'on en tombe pratiquement souffrant.
Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir sur l'extérieur.
S'ouvrir sur l'extérieur, s'ouvrir sur du non-pensé, du non-su, vraiment s'ouvrir à quelque chose d'inconnu.
Donc aller vers le lâcher-prise. Merci Katharina Oussaman. Dans Priorité Santé aujourd'hui, émission Questions de femmes, questions de parents, on va parler santé respiratoire. Une pneumologue à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur l'asthme. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est bien noté. Merci Caroline Paré. Ainsi se referme 24 heures en France. À la réalisation, Valentin Vaner, Loïc Buissière à la rédaction en chef. Restez avec nous sur RFI. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour de l'actualité africaine avec Paul Loncin-Spinelli. Mais avant, on fait un tour à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
La bourse, c'est avec vous, Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones termine la semaine sur un bond de 564 points, revient à 41 317. Le Nasdaq s'offre 267 points et atteint 17 978. Deux nouvelles rassurent Wall Street aujourd'hui. La première est un signe explicite donné par la Chine de réflexion sur l'engagement de négociations commerciales avec Washington. Surtaxés à 145%, les biens chinois ne sont plus compétitifs sur le marché américain et les mesures de rétorsion chinoises ont de même exclu les produits américains du marché chinois. La situation actuelle de blocage n'est pas viable, une désescalade est indispensable et Pékin semble se préparer à cela en indiquant évaluer la possibilité de discussion. Deuxième nouvelle rassurante aux yeux de Wall Street, les créations d'emplois aux États-Unis en avril dépassent les anticipations et le taux de chômage reste très bas, 177 000 créations nettes de postes, 4,2% de chômage, montre que l'économie américaine entre dans la guerre commerciale avec un marché du travail encore sain. On note le recul de près de 4% du cours d'Apple. Le géant californien estime que la guerre commerciale pourrait augmenter ses coûts de 900 millions de dollars. L'euro remonte à 1,1305, le baril américain de pétrole rend plus d'1% et termine à plus de 58 dollars. L'indice Dow Jones aujourd'hui reprend 1,4%, le Nasdaq s'offre 1,5%. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a grimpé de 3%, le Nasdaq a grimpé de 3,4%. C'est la 9e séance consécutive de hausse pour Wall Street.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale. Ce dimanche, sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
Le journaliste et écrivain Jean Sevilla vient de publier une nouvelle édition de son livre intitulé « Le terrorisme intellectuel ». Alors de quoi s'agit-il exactement ?
Le terrorisme intellectuel est une méthode qui ne change pas. Ce qui change, c'est l'idéologie dominante. Mais la méthode, c'est toujours la même. Ça consiste à déconsidérer son adversaire pour ne pas aborder les questions de fond.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.